Monaco, Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Grégory Volokhin.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de Mescard Financial Services et vous gérez des fonds, notamment sur les marchés américains. Et on peut le dire, vous êtes l'un des plus grands spécialistes de ces marchés américains depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Justement, si on a voulu ce soir sur Europe 1 être en ligne avec vous, c'est parce qu'on a voulu parler des conséquences de la décision de Twitter de suspendre de façon définitive le compte de Donald Trump. Et ça s'est vu aujourd'hui notamment en bourse, à l'ouverture, puisque l'action Twitter s'est effondrée. Celle de Facebook également a reculé assez nettement à l'ouverture. Est-ce que ça veut dire que les investisseurs ont peur de la décision prise par Twitter de suspendre Donald Trump ?
Je dirais simplement que les investisseurs ont peur que le nombre de personnes qui utilisent quotidiennement Twitter ne commence à baisser. Et si c'est le cas, évidemment, ça pourrait avoir des effets négatifs sur la profitabilité d'un Twitter. Mais ça, je dirais, c'est plutôt l'épisode d'une journée. La très grande question est moins là que, dans un sens, est-ce que c'est un grand problème pour Donald Trump lui-même, qu'il soit maintenant exclu de Twitter ? Et à mes yeux aussi, ce qui est très important, c'est de comprendre pourquoi Twitter a censuré définitivement Donald Trump.
Alors justement, pourquoi d'après vous, une entreprise privée comme Twitter a pris cette décision, puisqu'ils en connaissaient sûrement les conséquences?
Je dirais que pour Twitter, ils avaient eu très peur ce printemps. Il faut se souvenir des émeutes de Charlottesville, avec le Ku Klux Klan, avec des appels à la haine et au meurtre sur les réseaux sociaux. C'était surtout sur Facebook à l'époque, et ça avait commencé un mouvement dans lequel, tout simplement, des grandes compagnies qui utilisent ces réseaux sociaux pour faire de la publicité avaient suspendu leur publicité sur ces réseaux sociaux. On peut parler de compagnies telles que Unilever, Coca-Cola, Starbucks. Donc, pour un Twitter comme pour un Facebook, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le risque pour eux est beaucoup plus important de perdre leurs annonceurs, parce que c'est la seule façon dont Twitter gagne de l'argent, c'est avec la publicité, que de devoir juste se séparer d'un Donald Trump.
Donc, ce que vous voulez dire, Grégory Volokhin, c'est que sur le long terme, Twitter, comment on pourrait dire, essaye surtout de sauvegarder son image ?
C'est à mes yeux, oui, son image, la paix à l'intérieur de sa compagnie. Les employés étaient très, très critiques aussi du fait que Twitter était devenu le porte-parole de Trump et de la désinformation de Trump pendant des années. Donc oui, Twitter, il faut dire, c'est assez cynique ce qu'ont fait ces compagnies, que ça soit Twitter, Facebook ou Google. Mais c'est plus par, comme on dit en anglais, self-interest, c'est leurs propres intérêts qui sont en jeu en ce moment. Et en plus, on peut dire vraiment qu'ils essayent de s'acheter la paix avec les démocrates. Il faut savoir qu'ils risqueraient d'y avoir...
Mais c'est-à-dire que si on vous comprend bien, c'est cynique parce qu'ils ont attendu que Donald Trump soit grosso modo à terre pour prendre cette décision, être sûr que ce soit bien Joe Biden et lui envoyer un message en disant « Regardez, on est sympa, il ne va peut-être pas trop falloir nous taxer derrière ». Est-ce qu'on peut le résumer ainsi ?
Vous l'avez très bien résumé, c'est ça à mes yeux. Ce n'est pas un grand débat sur la liberté d'expression. On sait que Twitter, de toute façon, est une compagnie privée. Donc, le débat n'est pas là. Le débat est beaucoup plus important au niveau quel va être, sur ces prochaines années, l'importance de ces réseaux sociaux. Et est-ce que ces réseaux sociaux peuvent contaminer continuellement la pensée des gens avec la diffusion de ce qu'on appelait les fake news, mais c'est vrai. En fait, sur Twitter, il y avait beaucoup de fausses nouvelles que les gens prenaient au comptant. Donc ça, c'est très important. L'effet sur l'action aujourd'hui n'est pas très important. Et je dirais, en fait, ça a été un calcul relativement cynique de la part de tous ces réseaux sociaux. Et comme vous le dites très justement, Trump, dans une semaine, il ne sera plus là. Donc les réseaux sociaux ne couraient pas beaucoup de risques pour le faire maintenant. Ils ne l'auraient pas fait il y a 4 ans. Ils avaient besoin de Trump pour attirer du monde, beaucoup moins maintenant.
Oui, puis là, le message aussi est un message envoyé donc à la nouvelle administration américaine, en l'occurrence les démocrates, puisqu'on sait qu'il y a des risques soit de couper Facebook en plusieurs entreprises, parce qu'ils sont devenus trop puissants. On sait que ça pourrait également toucher Twitter avec des règles qui pourraient être beaucoup plus dures. Là, finalement, en envoyant ce message, ça veut dire « laissez-nous tranquilles, regardez, on sait s'autoréguler ».
Oui, parce que ça aurait été justement ce que d'abord les démocrates auraient reproché au Twitter et au Facebook, c'est vous laisser vraiment un contenu être sur les ondes avec des appels à la violence qui glorifient la haine raciale, etc. etc. Donc en prenant ces mesures maintenant, d'une certaine façon, je dirais vraiment, non seulement ils s'achètent les bonnes grâces des démocrates, mais ils commencent d'une certaine façon à négocier directement avec les démocrates pour essayer d'éviter justement cet effort de réglementation qui, de toute façon, leur serait négatif. La réglementation n'est jamais positive dans notre monde capitaliste, je dirais. Elle pourrait être très positive justement pour diminuer peut-être les appels à la haine raciale, mais pour les gros sous de ces compagnies, la réglementation n'est pas positive.
Vu de France et donc vu de loin, on a l'impression que Facebook négocie un poil mieux ce virage. Déjà, eux n'ont pas suspendu pour tout le temps le compte de Donald Trump et surtout, ils essayent, mais il faut dire qu'ils sont tellement attaqués également par les autorités américaines, d'être un petit peu plus transparents. On sait par exemple officiellement le nombre de modérateurs, je crois que c'est 35 000 dans le monde pour Facebook. On ne sait rien pour Twitter. Est-ce que cette affaire montre aussi toute la face cachée d'une certaine manière du réseau social Twitter?
Vous soulignez un point important. C'est vrai que Facebook a une avance très importante sur les autres réseaux sociaux au niveau justement du contrôle des messages. Et c'est vrai qu'ils ont des milliers de personnes qui passent leur temps à essayer de ou supprimer ou en tout cas bien encadrer tous les messages qui pourraient être des appels à la violence ou à la haine. Twitter apparaissait pour le moment un peu comme le Wild West, le Far West, où tout était permis. Ils n'avaient pas mis en place ce système d'autorégulation très important qu'avait mis Facebook. Ils vont le faire certainement maintenant. Et c'est peut-être aussi pour ça que les actionnaires de Twitter vendent en se disant « Bon, Twitter va devoir dépenser beaucoup d'argent justement pour s'autoréguler. »
Merci beaucoup Grégory Volokhin. Je rappelle que vous êtes le président de Mescart Financial Services. Vous gérez des fonds, grand spécialiste de la bourse américaine et vous étiez en ligne avec nous depuis New York.